Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre ce zapping avec un extrait du Morning RMC. Et cette info qu'on vous a révélée ce matin sur RMC, 500 permis de conduire retirés pour usage du téléphone au volant. Faut-il faire la même chose partout en France? Aujourd'hui, c'est le département des Deux-Sèvres qui devient le 8e département en France à mettre en place cette mesure. Suspension du permis, retrait du permis pour usage du téléphone au volant. C'est pas du tout du goût des automobilistes verbalisés. Tiens, écoutez Clara au micro de notre reporter Pierre Bourgès.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc je tiens mon téléphone dans la main et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que je me suis fait voir en tenant mon téléphone, quoi, tout simplement. J'en ris aujourd'hui, mais c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps et je suis à un endroit où il n'y a pas de moyen de transport et donc là, je me suis dit c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. J'ai utilisé mon vélo, j'ai utilisé mes petits pieds, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Ah oui, mais on l'entend bien là, cette Clara. Certes, elle est dans l'illégalité et en même temps, est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre le permis pour quelqu'un qui a tenu son téléphone quelques minutes au volant? Juliette Briens.
Non mais j'entends les excuses à rallonge pour aller justifier quand même un comportement qui est vraiment plus que courant. Je vous dis, alors, je prends pas beaucoup la voiture, très rarement. Ce week-end, je suis allée en Normandie, j'ai fait l'aller-retour, c'est pas moi qui conduisais, et sur le retour, il y avait un peu des bouchons un peu lents, et je me suis amusée à regarder les autres dans les voitures. C'est pas 1 sur 10, c'est pas 2 sur 10, c'est pas 3 sur 10, c'est pas 4 sur 10. C'était 6 à 7 personnes sur 10 dans les bouchons, les yeux rivés sur leur téléphone. C'était vraiment choquant. On n'est pas sur un comportement marginal. Le téléphone au volant, j'ai l'impression que c'est une habitude lorsqu'on se sent en sécurité de la vue de la police ou des radars qui est totalement banalisée. Voilà, je veux le dire. Donc, je suis contente qu'il n'y ait pas eu d'accident ce jour-là. Mais c'était très rare de voir un conducteur. Alors, on allait lentement, certes. On était dans des bouchons, certes. Mais ils étaient tous les yeux rivés sur leur téléphone. Et je me suis dit, il y a peut-être quand même une sonnette d'alarme à tirer.
Et c'est dangereux. Alors, certes, moins dans les bouchons, etc. On entend les automobilistes qui se trouvent toujours des excuses, mais ça reste dangereux. Est-ce qu'il faut plus de sévérité? Là, il y a 8 départements. Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut le faire partout en France? Téléphone à la main, suspension, retrait de permis.
Je suis fils de garagiste. Des accidents avec des voitures irréparables, donc les garagistes sont pas contents. Suite à des téléphones au volant, j'en ai vu des dizaines dans ma vie. Celui qui dit qu'il s'est fait avoir alors qu'il faisait rien, il n'y a jamais de bol en fait. Mon téléphone a tombé, je l'ai ramassé. Quand quelque chose tombe, tu te penches pas pour le ramasser déjà. Donc ça peut pas marcher comme ça. C'est ceux qui n'ont pas eu d'accident qui peuvent en parler. Ceux qui ont un accident avec le téléphone au portable, on les aura pas en interview, parce qu'ils peuvent plus faire d'interview. Voilà. C'est un fléau. Moi, j'ai juste un tout petit problème. C'est que ça devrait être la même règle, quelle que soit la règle, ça devrait être la même règle pour tout le monde, oui, dans tous les départements. Parce que nul n'est censé ignorer la loi.
Là, c'est chaque préfet.
Alors
chaque
que là, si la loi change d'un kilomètre sur l'autre, parce que tu as franchi une frontière du département, que tu ne le sais même pas, tu peux ignorer la loi. Bon, il y a un problème constitutionnel, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi doit être la même pour tous et partout. Donc, en fait, c'est juste parce que on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'il n'y a personne qui prendra cette décision. Mais je pense qu'il faudrait l'élargir.
Est-ce qu'elle serait populaire aussi, cette décision? Est-ce qu'il y a des politiques qui ont envie de porter ça?
C'est ça le sujet, il faut supprimer les limitations de vitesse, il faut que tu puisses conduire avec les pieds sur le tableau de bord, parce que tu as une boîte automatique, et en bouquinant et en faisant une visio.
Non mais ça pourrait être.
Garde tes enfants chez toi. Hein.
Non mais il faut toujours il faut que la sanction soit graduelle. Ça pourrait être première fois, c'est 6 points par exemple.
On se plaint tout le temps que la justice est pas assez dure qu'il y a pas assez de sanctions et que donc vu que tout est impuni en France et rien ne se passe. Mais moi je trouve ça génial.
Combien de morts? On leur enlève leur 3 500 morts par an.
Évidemment.
Et quelle profession?
Je défends pas.
Imagine s'il y avait 3 500 morts par an. suite à des accidents d'avion en France. Mais il y a longtemps qu'on aurait fermé les aéroports,
évidemment,
les mecs.
Évidemment, Jérôme, mais ce que je dis, c'est que sinon, dans ce cas-là, on suspend le permis, on retrait de permis pour tout. C'est passage au feu orange, hop, retrait de permis. Tout est dangereux au volant. Une roue sur la ligne blanche, c'est dangereux.
Mais être au téléphone, ça te double, voire triple les risques d'accident quand tu es en train de regarder ton téléphone. Ouais. Même 5 secondes, ouais. Je crois que non, même 3 secondes d'inattention, ça met en danger tout le monde sur la route.
Donc vive le durcissement, oui, des sanctions. Ah ouais. J'ai bien compris, autour de ce plateau, on passe à un extrait des GG. Est-ce qu'il est difficile de vivre en France aujourd'hui lorsqu'on est musulman, juif ou pas blanc de peau? Ce sont les mots de Xavier Bertrand ce week-end, le président de la région des Hauts-de-France, qui ont fait bondir Joël Dagosséry, la coach de vie des GG.
Moi, je me sens vraiment comme une sorte de proie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que aux abords de l'élection présidentielle, il y a des sortes de griffes qui viennent se resserrer autour de ton cou, parce que on te dit, ah, on te rappelle, dis donc, t'es noir, ah, dis donc, t'es arabe, je parle pour toi. Alors, entre Mélenchon et maintenant Monsieur Bertrand, enfin, on n'en sort plus, donc non, j'appartiens à personne, on appartient à personne. Nous, on essaie de vivre tranquillement en France, et ce serait bien que les politiques le comprennent.
Élise Goffard, parce que Xavier Bertrand a raison de plaider, de défendre cette position, d'estimer qu'il est difficile de vivre en France lorsqu'on est musulman, juif ou pas blanc de peau, pour reprendre ses mots.
Je pense quand même, étant juive, on a beaucoup de chance d'être en France et pas dans des pays où on se ferait tuer, en fait. Il y a énormément de gens qui viennent en France pour vivre dans des meilleures conditions. Maintenant, c'est sûr que le racisme a explosé. Je pense que c'est un phénomène mondial. Moi, avec mes copains, on se demande où est-ce qu'on va aller vivre en ce moment, si vous voulez. Parce que bon, dans la culture juive, il y a un proverbe qui dit qu'on n'habite jamais, on grandit jamais au même endroit que ses grands-parents. On vit avec des valises. Mais si vous voulez, il y a une instrumentalisation politique. Moi, je me sens comme un objet. Je suis une femme objet aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, il y a LFI qui essaye d'aller chercher les musulmans et les gens des quartiers. De l'autre, t'as le RN qui va chercher les juifs. Et nous, on est des petits pions. Et on va d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, et on nous met dos à dos. Pour moi, ça devrait pas être difficile de vivre comme un juif ou comme un musulman ou comme un noir en France. Le racisme existe dans le monde entier, et c'est comme ça malheureusement. Mais on va dire que la France est un des pays, je trouve, qui échappe le plus. Il y a pas de loi raciste en France. On est protégé. Moi, en tant que femme juive lesbienne, je suis tellement en sécurité dans ce pays. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mourir parce qu'on est juif en France. Donc, il y a quand même une explosion du racisme. Les gens se détestent, mais pour moi, c'est de la faute de nos politiques. C'est eux qui nous mettent dos à dos. Tous les jours, on nous met dos à dos.
Oui, mais est-ce qu'ils nous
mettent... Si nous, on s'écoutait entre juifs et musulmans, on n'en aurait rien à foutre. On irait manger des couscous ensemble et tout irait bien. C'est les politiques qui jouent avec nous, et malheureusement, ce sont des blancs.
Oui, mais alors, Juliette Briand, c'est ce que Xavier Bertrand fait monter les tensions, nous met dos à dos quand il souligne le fait que en France, c'est plus difficile quand on n'est pas blanc ou quand on appartient à une minorité religieuse ou ethnique, en fait.
Mais quel ringard, ce mec. Franchement, mais le mec, il a 30 ans de retard dans ses discours. C'est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire quoi? Alors que donc c'est difficile pour les non-blancs, donc en fait, c'est la faute des blancs. C'est ça, en fait, un peu qu'on dit. Hein. C'est ça, hein. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, personnellement. En fait, les blancs sont racistes et persécutent les juifs, les musulmans dans ce pays et tous les non-blancs. Bon, bah, moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'effectivement, on vit dans un pays qui est très peu raciste et que quand on se compare aux autres, effectivement, en France, tout va quand même plutôt bien. Mais effectivement, ce qui se passe, et ce qui se passe depuis des années, et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont prévenu que ça allait arriver, mais personne ne les a écoutés, c'est qu'il y a de la communautarisation. Et on est dos à dos, c'est ça en fait. C'est que chacun se retrouve de plus en plus dans sa propre communauté.
Mais est-ce que les politiques le provoquent ou est-ce qu'ils ne font que répondre?
Il y a plusieurs choses qui l'ont provoqué. Il y a l'immigration incontrôlée. Il y a le fait qu'on n'a plus du tout adhéré à ce discours républicain de l'assimilation, de tous ensemble, et qu'on a privilégié un discours de venez avec vos différences, vous êtes différents et c'est bien, mettez en avant vos origines à tous les moments, etc. Moi, je pense que ça a été une catastrophe. Et puis, voilà. Aujourd'hui, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais regardez toutes les émissions de télécrochet et de télé-réalité, il n'y a plus une émission, que ce soit Star Academy, etc.,
ou s'il y a des gens de différentes couleurs de peau ou de différentes ethnies ou de différentes religions, le truc se finit pas en bataille raciale sur les réseaux sociaux. C'est horrible. C'est horrible. On en est là. Il y a plus une seule émission qui y échappe, que ce soit l'Eurovision ou Starac,
etc. Est-ce que, alors, mais on en Jérôme, est là. Est-ce que c'est le drame des politiques, comme le disait Juliette?
Mais ce pauvre Bertrand.
Voilà, est-ce que c'est un peu ringard de classer les Français, de s'adresser à eux, en fait, quelque part? Moi, j'ai pas envie qu'un politique s'adresse à moi selon ma religion, ma couleur de peau, etc. Est-ce que les politiques raisonnent avec des deux logiciels en se disant, on va parler comme ça aux musulmans, on va dire ça pour s'adresser aux juifs, on va parler comme ça pour les blancs, comme ça pour ceux qui ne sont pas blancs. Est-ce qu'il y a ce côté marketing de la politique qui est en train de tout gangréner aujourd'hui?
Non, mais ça, c'est ce que fait Mélenchon.
Mais exactement.
La segmentation, il parle pas à des citoyens. Il parle à des segments de la population.
Mais là, en l'occurrence, c'est Xavier Bertrand qui segmente.
Dans l'espoir d'en retirer un bénéfice politique. Ce que dit Xavier Bertrand, dont le combat vient de loin sur ce type de sujet, c'est qu'il est contre la communautarisation, la segmentation qui est faite par Mélenchon, mais que pour autant, on ne peut pas se voiler la face. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a entendu les parents, c'était pas les parents de la petite Liana, c'est l'autre fille, jeune fille dont on n'avait pas pris en compte les plaintes. Voilà. Et il y a un truc qui est vrai. Et c'est que la plainte de cette maman qui a du mal à s'exprimer en français a sans doute joué dans la prise en compte, la non prise en compte de sa plainte.
L'inspection, le rapport le dira, mais beaucoup disent que le fait qu'elle ait un accent.
Et si vous regardez les statistiques, quand vous arrivez dans les urgences en France, si vous êtes de couleur noire, eh bien, on va présupposer que vous êtes plus douillé, que vous êtes moins tolérant à la douleur, et du coup, on va pas prendre en compte votre douleur. Et ça, c'est vrai, c'est statistique, c'est pas mieux qu'en France. Donc ça existe, et ça aussi, il faut le dire. On peut pas juste lutter contre toute forme de communautarisation et pas dire, mais il y a aussi des choses qu'il faut améliorer dans l'autre sens. C'est ce que dit Xavier Bertrand, et pour moi, je pense qu'il a raison.
Un extrait d'Apolline Matin, maintenant. Faites-vous confiance au gouvernement pour faire payer les casseurs. Sébastien Lecornu annonce un projet de loi dès le mois de juillet visant à faire payer les casseurs suite aux dégradations après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Une loi casseur-payeur serait-elle efficace? Les explications de Romain Houg.
Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Ça va faire l'unanimité, mais est-ce que ce sera efficace? Est-ce que... Juliette Briand râle déjà, avant même qu'on ait le texte.
Non, c'est pas que je râle. Je demande à voir. J'ai vraiment pas confiance. La question, c'est est-ce qu'on a confiance? Non, j'ai pas confiance. Je pense que ça va être très difficilement mis en place parce que déjà c'est difficile d'avoir assez de comparutions immédiates et des vraies peines lorsqu'il y a ces saccages-là parce que il faut qu'ils soient pris en flagrant délit, les casseurs. Il y a des masses entières de jeunes qui convergent vers la police, qui sont dispersés de tous les côtés. Ils arrivent à en arrêter une poignée et après il faut qu'ils puissent dire au juge. Ce gamin-là, il a été pris en flagrant délit en train de briser une vitrine.
Et, oui.
Et si c'est pas le cas, en fait, c'est comme une grande, c'est comme une grande passoire en fait, ce genre de saccage.
Pour déterminer à la fin, ce qui changerait là justement, c'est si on prend quelqu'un qui est dans un rassemblement où les vitrines ont
ça
été changées.
Ça changerait quelque chose,
Le sanctionner.
Il faut que ça passe tous les échelons de l'acceptation d'une loi dans ce pays. Donc je pense que c'est pas pour demain.
Ça va dans le bon sens.
Ce sont des mots pour le moment. Ce sont des mots.
Bon, en tout cas, il va y avoir un texte. Jérôme connaît encore mieux que nous la machine parlementaire. Ça avance là. S'il promet un texte,
ça avance pas du tout.
Ah, ok. C'est moi qui me fais.
Non mais les gars, le discours discours de politique générale. De Gabriel Attal, tu casses, tu répares. C'était Carglass, hein.
Oui.
Tu casses, tu remplaces. C'était dans son discours de politique générale. Moi, je pensais que Benoît Hamon, Il y a déjà été prise.
Alors il y a déjà des choses dans la loi. C'est ce que rappelait ce matin Gabriel Attal sur RMC. Mais visiblement,
il
n'y
a pas toujours besoin de ça. Moi, je connais plein de municipalités. Quand il y a un jeune qui est pris, qui vient de casser un abribus, il s'embête pas par le tribunal. Hein. Mm. T'envoies un titre de recette. C'est la famille qui le reçoit. C'est pas une décision judiciaire. Hein. Une fois que t'as balancé le titre de recette, tu payes pas. T'as une augmentation. Puis t'as une augmentation. Puis au bout d'un moment, t'as une saisie sur salaire. Mm. Quand il y a les campagnes électorales, que les affiches, les partis politiques se mettent à saloper tous les murs en collant n'importe où, il y a des mairies, ils envoient le titre de recette à la permanence du candidat. Mm. Et je peux te dire que le mec, il rappelle vite fait ses couleurs d'affiches pour qu'ils aillent bien coller sur les panneaux. Parce que ça coûte très cher. Il y a plein de municipalités qui peuvent et qui le font déjà. Sur le principe, oui, mille fois oui.
Oui, pour l'instant, on en est au principe, on va attendre de voir.
Et si c'est des mineurs, les parents ont les moyens de pas élever leurs enfants, donc ils ont les moyens de payer les dégâts.
On termine ce zapping avec un extrait d'Apolline Matin. Faut-il faire passer tous les examens le matin, face aux fortes chaleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, souhaite que plus aucun examen ne se déroule l'après-midi. C'est déjà le cas pour une bonne partie des épreuves, mais selon Sophie Vinetité du syndicat enseignants SNES-FSU, cette mesure, cette annonce du ministre n'est qu'une rustine.
Ah oui.
Enfin, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage, on sait qu'on bricole pour trouver des remplaçants et on sait aussi qu'on bricole face à la canicule. C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Les choses n'avancent pas, en tout cas pas assez vite, notamment parce qu'il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à faire de la rénovation du bâti scolaire. Il n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques. Et c'est absolument scandaleux.
Bon, ça a le mérite d'être une première avancée, même si c'est un peu cosmétique. Jérôme Lavrieux est atterré par l'annonce de Geffray.
C'est une représentante syndicaliste de syndicats autant d'énormités.
Mais non.
Mais si, le bâti scolaire, ça ne dépend pas de l'Éducation nationale. Je suis désolé de le dire, hein, parce qu'il ne faut jamais dire ce genre de choses.
C'est les mairies
pour les écoles primaires élémentaires. C'est les départements pour les collèges. C'est les régions pour les lycées. Plutôt que de voter pour des gens autrement que par celui qui va te promettre le festival de je sais pas quoi et puis de raser gratis, bah regardez pourquoi vous avez voté.
Oui, mais
plutôt que de créer la énième salle de spectacle qui sert à rien, peut-être que vous auriez pu voter pour un type qui vous a dit moi je rénove toutes les mairies. La preuve c'est qu'il y a des écoles,
toutes les écoles.
La preuve c'est qu'il y a des écoles où il y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont fait leur boulot.
Oui, mais un ministre de l'Éducation, il donne une impulsion quand même si tu veux.
Non. Le ministre de l'Éducation, voilà. Il fait là ce qui est son rôle, c'est de dire voilà les horaires des examens. Les régions doivent s'occuper des lycées et pas des pâquerettes de je sais pas quoi. Et les départements.
Mais il pourrait dire on fait un grand plan national de climatisation.
Mais il n'y a pas besoin d'un grand plan national. C'est aux collectivités de prendre leurs responsabilités.
Bah, il faut un grand plan national pour les collectivités.
Elles se sont roulées par terre pour avoir de la décentralisation et s'en occuper.
C'est exactement ça.
C'est à elles de le faire.
Ça va quoi en fait?
C'est à elle de le faire. Sinon, n'ayons pas de région. Pourquoi il y a des régions qui y arrivent? Parce qu'il y a des régions, ils n'ont rien à foutre.
Oui, mais il y a beaucoup de communes aussi. Je vais voir le maire, je lui dis pourquoi il n'y a pas la clim. Il va dire, ah, c'est pas de ma faute, c'est l'État, c'est la région, c'est le département.
Eh ben, ça n'est pas vrai. C'est une question de choix budgétaire. Plutôt que de tartiner des séparateurs de voies en granit pour protéger les pistes cyclables.
Et on va en parler des pistes cyclables.
Tu peux acheter un climatiseur à la place.
On peut faire les deux. Mais moi, je trouve ça honteux. Je paye tellement d'impôts. Et quoi, je peux pas avoir la clim dans un bâtiment public? Mais allô?
Mais vote pour des gens qui font des choses.
Je suis imposée à 60% et on me dit maintenant, l'école va fermer une moitié de journée parce qu'il fait trop chaud. Mais mets la clim, frère. Mais mettez la clim. Mettez des ventilos. Comment c'est pas possible que pour les épreuves du bac, on achète des putains de ventilos? Ça coûte 15 euros, hein, un ventilo.
Je vous rappelle que les anticlims, c'est les écolos, hein, parce que ça consomme de
l'énergie. C'est bien de le rappeler quand même. Non, je suis désolée. Si. Les écolos aujourd'hui, ils sont très lucides sur la clim et sur la nécessité. Mais tu sais pourquoi?
Aujourd'hui.
Tu sais, aujourd'hui. Mais tu sais ce qu'ils disent les écolos? Ils te disent un truc très vrai. Ça sert à rien d'acheter une clim si ton bâtiment il est pas isolé parce que ça consomme comme pas possible.
C'est pour embrasser de l'air chaud.
Comment c'est possible? Excusez-moi. Que les écoles aujourd'hui ne soient pas des bâtiments isolés.
Pas toutes les écoles.
On est en train de nous dire, oui, pas toutes les écoles, mais je suis d'accord que t'as des régions plus intelligentes que d'autres, mais t'as une impulsion qui vient de l'État aussi. Je suis désolée, mais bien sûr que si, c'est un entonnoir. Au bout d'un moment, si t'as pas un État qui est fort et qui dit, les gars, bougez-vous le derche, et ben personne le fera.
pays
désolé pour les gros mots, ça m'énerve trop.
Si le roi ne dit rien, on ne fait rien.
Bah, c'est notre système, il marche comme ça, on est dans un système.
On parlait de la responsabilité des maires.